Bonjour. Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology.
Bonjour Céline.
Bonjour Caroline.
Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast Woman Body Ecology. Voilà, je te remercie parce que tu es vraiment pile poil au cœur de notre sujet, à savoir notamment l'accompagnement sur la gestion des cycles féminins à travers ton expérience de praticienne naturopathe. Tu concoctes plein de programmes hyper adaptés pour des femmes, notamment en période de ménopause, et tu es vraiment experte de ça. Donc, ça va être hyper intéressant pour nous de discuter avec toi de la manière dont les femmes peuvent apprendre à reprendre la main, en fait, sur leur cycle, donc finalement de la puberté à la ménopause, et que tu nous en dises un petit peu plus sur ton expérience et ton profil.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir, merci pour cette invitation.
Et alors, je te laisse peut-être te présenter rapidement, voilà, sur ce que tu fais, sur ce que tu es en train de préparer et ton expérience. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet.
Très bien. Alors, je m'appelle Céline Ovette, donc je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition et conseillère en aromathérapie. Et je suis donc spécialisée en santé féminine et plus particulièrement dans le bien-être féminin, les problématiques hormonales. Et donc, j'accompagne les femmes qui ont des problématiques liées, par exemple, au cycle menstruel, à l'endométriose, au SOPK ou encore, effectivement, la préménopause et la ménopause. En quelque sorte, j'aide ces femmes à retrouver leur équilibre par des moyens naturels. Pour cela, je vais utiliser donc différentes techniques, donc l'alimentation, la nutrition, bien sûr, c'est un des premiers piliers, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais aussi la phytoaromathérapie, les techniques de gestion du stress. Et donc, je vais accompagner donc ces personnes, donc soit à travers des consultations individuelles, mais aussi et surtout, désormais, tu le disais en introduction, via des programmes, puisque je suis de plus en plus sollicitée. Et surtout, je me suis aperçue que les programmes en ligne et notamment le fait de créer aussi une communauté autour d'un sujet, c'est très puissant pour obtenir aussi des résultats. Et donc, voilà, ces programmes mêlent à la fois des contenus éducatifs, des conseils personnalisés, des lives durant lesquels je réponds aux questions et puis encore une fois toute cette communauté qui permet des échanges et qui est très puissante autour de tous ces sujets.
Tout à fait, et je te rejoins là-dessus. C'est vrai que les communautés, on a l'impression que c'est en ébullition autour du bien-être féminin, parce qu'il me semble que c'était une problématique qui a été laissée vraiment de côté, voilà, peut-être trop tabou sur plein d'aspects, et qu'il y a une espèce de réveil, de prise de conscience de tout ça qui est assez récente. Alors, j'avais aussi une question par rapport à ça, justement. Est-ce que toi, on constate différents mouvements de fond quand on regarde les statistiques? Donc, voilà, il y a une statistique qui, notamment, m'a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, il y aurait moins de 35% des femmes en âge de procréer qui prendraient, par exemple, une pilule contraceptive. On sait bien que depuis 2012, la consommation aussi de traitements hormonaux substitutifs s'est effondrée. Est-ce que toi, tu as beaucoup de femmes dans ces cas-là qui viennent te voir et qui souhaitent, voilà, reprendre en main leur cycle avec des moyens plus naturels?
Alors, c'est effectivement une vraie tendance, entre guillemets, de fond, qui a commencé à émerger il y a à peu près, je dirais, 5-6 ans en France, et qui se poursuit. On le voit aussi sur le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Et effectivement, les femmes sont dans une approche de mieux-être, un retour au naturel. Et surtout, il y a eu aussi beaucoup d'informations, on va dire, qui ont été données sur, on va dire, un peu les effets secondaires de ces traitements, qui certes sont efficaces dans certains objectifs bien précis, mais qui à long terme et chez certaines femmes qui ne supportent pas ces traitements peuvent vraiment entraîner des grosses problématiques pour la pilule. Je pense notamment problématiques de dépression, de baisse de libido. On a vraiment des femmes qui perdent entre guillemets des années de vie à cause de la pilule. Et c'est vrai que quand on a tout essayé et qu'on se rend compte que c'est en arrêtant la pilule contraceptive et ben que tous ces problèmes s'envolent et que l'on va mieux, c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir. Donc je suis pas en train de faire l'apologie, enfin en tout cas de dire qu'il faut plus prendre la pilule contraceptive. Ce qui est important, c'est qu'il y a certaines femmes qui ne la supportent pas ou qui, à un moment donné de leur vie, ne vont plus la supporter. Et donc, il faut avoir conscience de ça, d'autant plus que la pilule contraceptive, par exemple, peut entraîner effectivement des carences, notamment en vitamine B6, en magnésium, etc. Or, ce sont des nutriments qui sont essentiels à l'équilibre hormonal et ça va créer derrière des problématiques au niveau de la thyroïde, du métabolisme de l'insuline, par exemple. Enfin, ça peut créer pas mal de soucis et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ces effets secondaires qui peuvent être entraînés par exemple par ce type de traitement.
Tout à fait. Non, mais je te rejoins sur le fait que le but n'est pas du tout de, comment dire, de stigmatiser tout ce qui est hormones de synthèse ou même hormones bioidentiques, parce que les traitements en plus s'améliorent et sont de plus en plus naturels de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est plus de vouloir au moins comprendre comment ça se passe, ça veut dire un vrai cycle avec une vraie ovulation, avec comprendre ce qui se passe dans notre corps à un moment et comprendre à quel point, tu le disais très bien, le psychisme et la qualité de vie sont interdépendants de notre équilibre hormonal. Et effectivement, il y a des statistiques qui font froid dans le dos. Je voyais même au niveau, donc rien à voir avec le traitement hormonal substitutif, mais on a 20 fois plus de chances de se faire diagnostiquer une dépression en période de préménopause que n'importe quand dans sa vie. Et donc, si on n'arrive pas à prendre du recul sur ces changements métaboliques et à mieux comprendre comment on fonctionne, de toute façon, les solutions seront un peu mauvaises, entre guillemets, puisqu'on n'aura pas essayé de reprendre un petit peu son corps en main. Donc, c'est là où l'accompagnement a tout son sens, parce que je pense, en interrogeant beaucoup de femmes et par notre expérience, on a eu tendance à beaucoup déléguer notre fonctionnement hormonal via la pilule ou d'autres choses, en tout cas être un petit peu déconnecté de nos cycles. Et donc j'ai l'impression qu'en tout cas la naturopathie accompagne beaucoup les femmes à mieux comprendre leur corps, pour commencer.
Tout à fait, et c'est vrai que l'hormonal, le système endocrinien, ça a fait peur pendant longtemps, je pense, aux femmes et même à d'autres praticiens de bien-être, etc. Et là, on sent qu'il y a effectivement une prise de conscience et je pense qu'effectivement, la première clé, et tu le disais très bien, pour reprendre son bien-être, sa santé en main, c'est aussi de savoir comment fonctionne notre corps et notamment en tant que femme, notre nature qui est cyclique en fonction effectivement de nos cycles, mais en fonction aussi des différentes étapes de la vie de la femme. Si on passe effectivement par une grossesse, le postpartum, effectivement préménopause, ménopause, etc. Et de prendre conscience aussi de ses propres rythmes, ses propres besoins, son niveau d'énergie aussi qui va varier à la fois en fonction du cycle et entre guillemets aussi en fonction des étapes de la vie de la femme. Et ça, c'est très très important parce que dans nos vies ultra stressées, et il faut savoir que les femmes n'ont jamais été aussi stressées de leur vie qu'à cette époque qu'on est en train de vivre, on peut pas être tout le temps à fond et il faut savoir reconnaître qu'à certains moments du cycle on a une baisse d'énergie, on a envie de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, et ça, c'est totalement normal. Et la société peut nous faire croire qu'effectivement, non, faut être à fond tout le temps, faut être investi effectivement dans son couple, ses enfants, son travail. Et le vrai souci aussi des femmes, si je peux me permettre ici, c'est que on est rarement aussi bienveillante avec soi qu'on l'est avec les autres.
Tout à fait. Non, mais ce décentrement des femmes, c'est très connu, de ne pas être centré sur soi.
C'est ça. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on fait passer les autres avant soi. Donc, les enfants, le mari, le travail, les amis. On garde pour soi uniquement ce que j'appelle les miettes de notre temps. Et ce qui se passe, c'est que la personne la plus importante de notre vie, encore une fois, c'est nous. Et tout ce petit monde a besoin de nous au top de notre forme, de notre potentiel. Et c'est vrai que si on donne toute son énergie et son attention aux autres, il va rien rester pour nous. Or, c'est très important si on veut prendre soin de sa famille, d'avoir une carrière épanouissante, etc., de prendre soin de nous pour pouvoir donner aux autres. Et ça, c'est important. Et donc, il faut apprendre effectivement à mieux se connaître, le fonctionnement de ses cycles, le fonctionnement de son rythme d'énergie, etc., pour pouvoir adapter une hygiène de vie qui soutienne effectivement notre santé et notre bien-être à long terme et pas juste faire entre guillemets de l'antisymptomatique comme on peut le faire.
Rentrer en résistance contre des choses, ouais, tout à fait.
Tout à fait.
Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu dis, il faut aussi prendre du recul. Donc effectivement, d'une part sur son fonctionnement cyclique, qui est de toute façon physiologique, et d'autre part aussi sur un biais culturel qui invite les femmes à être beaucoup dans l'hyperactivité, à tout gérer, alors que finalement, moi, j'aime bien dire qu'à chaque phase de ces cycles, hein, que ce soit des cycles menstruels ou la préménopause ou la ménopause, c'est que finalement, il y a toujours des aspects négatifs comme positifs. Ces phases où on peut être aussi un peu plus fatigué, un peu plus irritable, c'est aussi des phases qui sont valorisées, que je trouve très amusant dans certaines tribus, comme étant des phases de beaucoup plus grande réceptivité et empathie à l'autre. Donc il y a vraiment des mélanges, on a tendance à toujours voir le côté négatif parce qu'on le voit sous un biais d'hyperactivité, il faut savoir qu'à chaque phase il y a aussi des aspects positifs et qu'effectivement il faut en avoir conscience pour pouvoir bien les utiliser aussi. Et qu'est-ce que tu penses, parce que toi qui es amenée à vous rencontrer beaucoup de monde dans ces cas-là, quels sont tes premiers conseils ou tes plantes ou tes conseils alimentaires ou physiques qui reviennent le plus souvent et qui ont le plus souvent d'effet pour ces différentes phases? Est-ce que c'est vraiment du one-on-one ou est-ce que tu as quand même quelques conseils d'ordre général qui conviennent à la plupart des femmes?
Alors, c'est vrai que souvent, j'individualise, moi, à chaque fois, tous mes, entre guillemets, mes protocoles, si je peux utiliser ce terme. Mais il y a quand même des grandes lignes directrices qui sont très importantes à suivre. Alors, déjà, le premier pilier, c'est l'alimentation. Alors ça, je crois qu'il faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'alimentation. Je le répète sans arrêt, on est ce qu'on mange, mais on est surtout ce qu'on digère. Donc, il y a à la fois le contenu de l'assiette, mais également l'optimisation du système digestif qui entre là-dedans et qui sont deux composantes essentielles. Donc, l'alimentation, hein, il faut savoir, même pour réduire, par exemple, les douleurs menstruelles, ça joue sur l'humeur, ça joue sur l'énergie. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne assiette. Et puis, même quand elle est bien équilibrée, de l'adapter encore plus en fonction, par exemple, des phases du cycle. Donc, ça, c'est vraiment important et valable pour toutes. Ensuite, il y a un sujet aussi qui, moi, me tient à cœur et vous en avez déjà parlé sur ce podcast, c'est, on va dire, cette épidémie de perturbateurs endocriniens dans laquelle on baigne, qui occasionne notamment des pubertés précoces chez les jeunes filles, des symptômes prémenstruels plus, enfin voilà, des tableaux des fois très, très compliqués à prendre en charge, des ménopauses aussi, hein, qui sont très difficiles des fois à gérer. Et ça, c'est aussi, cette dominance en œstrogènes qui se met en place avec ces perturbateurs endocriniens qui vont mimer l'action des œstrogènes et qui vont donc augmenter ces taux circulants dans notre corps. Et donc ça aussi, c'est important de limiter cette exposition en essayant d'avoir une alimentation bio, en essayant d'avoir des routines de soins aussi avec exempt de tous ces produits nocifs. C'est valable aussi pour les produits ménagers, l'ameublement, etc. Donc là-dessus, il y a énormément de choses à faire. Et puis le stress qui va être aussi un perturbateur majeur puisque le cortisol qui est l'une des hormones du stress va venir interférer avec la production de la progestérone et donc va aussi contribuer à un climat de dominance en œstrogène. Donc c'est vraiment les trois piliers, l'alimentation,
C'est un phénomène qui est trop peu connu. Est-ce que tu peux nous redire les principaux symptômes que tu vois? Parce que c'est vrai que souvent les gens ne connaissent pas la dominance œstrogénique, alors qu'on estime qu'il y a quasiment plus de 50% des femmes largement qui sont atteintes de dominance œstrogénique, de femmes en âge de procréer, mais ça peut même arriver effectivement en préménopause ou après. Quels sont les principaux symptômes, selon toi, les plus classiques qui permettent d'identifier ce phénomène?
Alors, il y en a beaucoup. On va avoir tout ce qui est, entre guillemets, prolifératif. Donc, c'est-à-dire les douleurs dans les seins qui gonflent, les mastoses. On va avoir les règles hyper abondantes, les fibromes aussi. Donc, ça, c'est, entre guillemets, les premiers signes. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui va être maux de tête, les symptômes de fatigue, de dépression, d'anxiété, les sautes d'humeur, tout ce qui va être aussi, troubles du sommeil. Donc voilà, il y a une cinquantaine hein, de signes, on va dire. Mais en gros, c'est vraiment ça. Il faut bien se rendre compte que les œstrogènes et la progestérone ont des effets antagonistes et normalement les effets de l'une sont contrecarrés par les effets de l'autre. Et quand effectivement, pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a trop d'œstrogènes en circulation, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de progestérone pour contrebalancer les effets des œstrogènes. Et comme les œstrogènes sont entre guillemets des hormones prolifératives, ça va donner lieu à tout ce que j'ai décrit auparavant. Et donc, c'est aussi pour ça que grâce à certaines mesures qu'on peut mettre en place, on peut essayer de baisser, entre guillemets, ce climat œstrogénique et de booster un petit peu celui de la progestérone pour rééquilibrer les choses. Mais c'est vrai que tout ça, ces pubertés précoces, ces symptômes rageants du SPM et de la ménopause, on se rend compte que il y a aussi une évolution par rapport à notre degré d'industrialisation, puisque c'est aussi des choses qu'on ne constate pas dans des sociétés qui sont moins industrialisées que nous, par exemple. Oui,
complètement. C'est dans les pays justement les plus matures et souvent d'ailleurs dans les populations les plus favorisées que se constatent notamment les pubertés précoces. Tu as complètement raison et c'est vraiment un signe d'exposition. Alors juste petite parenthèse que ça rentre vraiment dans le sujet. On estime qu'au niveau des plastiques notamment et donc de ce qui nous entoure, donc tout ce qui est ustensiles de cuisine, faire la chasse même à silicone par précaution ou alors des silicones de très bonne qualité au plastique, faire attention à la manière dont on réchauffe les choses, vraiment éviter les plastiques dans le micro-ondes, 80% des plastiques des perturbateurs endocriniens seraient des xénoestrogènes, donc spécifiquement des molécules qui imitent les œstrogènes. Et effectivement, je rebondis là-dessus, tu parlais des douleurs mammaires. Je sais qu'une des principales prises en compte de symptômes très typiques de la dominance œstrogénique, ce sont notamment des crèmes à base de progestérone ou de précurseurs de progestérone. Comme le YAM qui viennent vraiment soutenir ça. Et le stress, comme tu dis, est l'ennemi majeur numéro un de la dominance œstrogénique puisqu'il va lui-même renforcer cette dominance. Donc, est-ce que tu as aussi, tu disais des conseils alimentaires. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires, notamment, pour faire baisser cette dominance œstrogénique?
Mais ça va être de consommer déjà un maximum de produits bio, puisque notamment sur des... Et bon, la viande, c'est un peu compliqué de trouver de la bonne viande bio, mais c'est vrai que là où il y a effectivement des antibiotiques, des facteurs de croissance, donc les produits laitiers, etc., ça va contribuer à, on va dire, à renforcer ce phénomène. Donc, c'est essayer de manger un maximum de fruits et légumes de qualité biologique, de remplacer là aussi tout ce qui va être blanc au niveau des glucides par des céréales plutôt complètes, semi-complètes. Éviter évidemment tout ce qui est industrialisé, transformé, puisque alors là, on a des additifs alimentaires, des exhausteurs de goût, etc. Donc, ces molécules sont testées les unes indépendamment des autres, mais c'est vrai que dans des effets un peu cocktails, comme on peut les retrouver dans des listes à rallonge, c'est compliqué. D'autant plus que se rajoute à ça ceux qui sont contenus dans les produits de soins, les produits de beauté. Alors là, la liste est longue, puisqu'une femme consomme en moyenne, utilise en moyenne 15 produits par jour dans les routines de soins beauté. Donc c'est vrai que quand on additionne au dos la liste des ingrédients, alors là c'est vraiment très très compliqué de savoir à long terme quel va être l'effet de tout ça. Mais en termes d'alimentation, oui, c'est vraiment d'avoir une alimentation de type méditerranéenne, la plus naturelle possible, la plus brute et la moins transformée possible.
Tout à fait. Et éviter les produits laitiers, comme tu l'as dit, qui sont aussi riches en hormones, très souvent, même bio, c'est aussi quelque chose qui est important, comme tu le disais. Et l'exercice physique améliore aussi, ça veut dire que ça permet aussi de contribuer plus rapidement à retrouver un bon équilibre hormonal. Est-ce que tu vas souvent sur ce type de conseil ou par quoi tu commences en général quand tu reçois justement tes clientes?
Alors, quand je reçois effectivement une femme en consultation, déjà, je vais accueillir sa demande, savoir un petit peu pourquoi elle vient me consulter, quels sont ses objectifs par rapport à cette demande aussi. C'est très important de formuler des objectifs qui soient clairs, à la fois pour elle et à la fois pour moi, pour bien répondre à sa demande. Ensuite, on va passer par une enquête, on va dire, de style de vie, une enquête alimentaire, pour voir un petit peu voilà, où ça peut pêcher et ce qu'on va pouvoir rééquilibrer. Mais c'est vrai qu'on passe en revue tout le style de vie, toute l'alimentation. Et effectivement, l'activité physique, c'est un pilier qui est très important, dont je parle aussi systématiquement, en essayant d'encourager effectivement cette pratique. Alors, à plusieurs titres, elle est bénéfique parce que on va créer des endorphines, donc c'est bon aussi pour le moral, pour l'humeur. Chez certaines personnes, ça va contribuer à améliorer la sensibilité des cellules à l'action de l'insuline. Donc ça, effectivement, quand on a des problématiques, soit de poids, soit pour améliorer aussi, on va dire, sa condition physique, mais aussi à la préménopause et la ménopause, puisque à cette période de la vie, on va dire qu'une activité physique, ça doit faire partie de l'hygiène de vie. Et puis aussi pour éviter, par exemple, l'ostéoporose, ce genre de désagréments qu'on peut aussi avoir au moment de la préménopause et de la ménopause. Donc, l'activité physique, c'est un pilier important, d'autant plus qu'on est de plus en plus sédentaire. Et donc, c'est important de remettre ça, on va dire, au milieu de l'hygiène de vie.
C'est vrai, et puis on a eu tendance à dire justement, et pendant des années, je trouve, quand il y avait de l'ostéoporose, en tout cas une génération au-dessus, ou même des problèmes de maux de dos, on disait plutôt de pas bouger, etc. Et maintenant, on vient de se rendre compte à quel point il faut toujours rester actif, même pour les maux de dos, et l'ostéoporose, c'est des micro-chocs aux os, c'est ça qui va vraiment venir renforcer les os. Donc, pour entretenir le corps, il faut bouger, il faut avoir des micro-chocs, il faut le mettre en mouvement. Et justement, même quand il y a des douleurs et des choses comme ça, quand c'est pas droit d'articulaire, on se rend compte qu'il vaut mieux bouger parfois. Après, c'est toujours votre médecin qui vous dira, que de rester justement immobile en attendant que ça passe.
Alors ça, c'est totalement vrai, parce que le corps, il est fait pour bouger. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque de la préhistoire, et pour le coup, nos métabolismes, etc., ont assez peu évolué depuis. On devait parcourir des kilomètres pour aller chasser notre nourriture. On était toujours en mouvement, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre non seulement de mal manger, trop mal manger, mais de ne pas assez bouger. Et quand le corps ne fonctionne pas et ne bouge pas assez, eh bien, il rouille. Et c'est aussi pour ça, quelque part, j'aime bien utiliser cette image-là, c'est qu'on a une belle mécanique, mais si elle tourne pas régulièrement, elle rouille. Et donc, c'est exactement pareil avec aussi cette épidémie, on va dire, de douleur, de mal de dos, etc. C'est qu'on ne bouge pas assez, et tu as totalement raison de dire qu'effectivement, le meilleur remède à tout ça, c'est surtout pas de rester immobile, parce que ça va ne faire qu'empirer les choses, mais c'est justement de se dérouiller et de marcher, même la marche, hein, c'est un exercice qui est accessible quasiment à tout le monde. Après, il faut trouver son rythme, sa distance, mais rien que ça, le bienfait que ça fait, c'est fou, quoi.
Il y a très peu de risques à se mettre à marcher, à faire de la marche rapide, à prendre l'air, puisque c'est un sport qui entretient beaucoup même la mémoire. On trouve beaucoup de liens même entre effectivement le mouvement et des phénomènes psychologiques et de mémorisation neurologique. Et finalement, comme tu dis, la marche, c'est la première chose par laquelle commencer. Alors qu'on peut se faire mal en commençant l'activité un peu plus traumatisante pour le corps, comme du jogging, mais la marche, il faut vraiment se réintégrer la marche dans nos routines quotidiennes pour un départ. Et tes plantes favorites, si tu en as, si tu as des choses que tu as tendance à recommander aussi pour ce genre de cas de dominance œstrogène, on va peut-être différencier ce qui serait le syndrome prémenstruel exacerbé avec la dominance œstrogénique et la partie plus préménopause.
Alors après, encore une fois, tout dépend toujours du...
Oui, bien sûr.
Sexe, hein, bien sûr, parce qu'il y a effectivement certains antécédents, voilà, qu'il faut prendre en compte, en considération, etc. Mais l'idée, effectivement, ça va être d'utiliser des plantes, on va dire, à action, qui vont, entre guillemets, baisser le climat œstrogénique en renforçant le climat de la progestérone. Donc, ça va être, par exemple, la gripomme. On peut avoir également la chémie, la chilée. Chez les femmes, au moment de la ménopause également, j'aime beaucoup la lactée à grappe noire, qui fonctionne très bien. Mais encore une fois, moi, j'aime vraiment individualiser. pour vraiment, en fonction des symptômes, des problématiques, essayer de voir en fonction des antécédents de la personne ce qui peut fonctionner le mieux. Et c'est vraiment ça aussi, je trouve, qui est intéressant, c'est que finalement, chaque personne est différente. On va pas forcément réagir de la même façon à certaines plantes. Par contre, moi, il y a une plante que j'utilise avec pas mal de précautions, et je sais que je suis un peu, alors pas toute seule, mais des fois, je me sens un peu seule sur ce sujet, c'est le gatillier.
Le gatillier,
je le vois dans énormément de compléments alimentaires. Or, le gatillier, moi, j'aime bien rappeler que, a priori, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est quand même une plante qui agit sur l'hypophyse. Et donc, c'est pas neutre parce qu'en fait, c'est exactement le même moyen d'action que la pilule contraceptive. Et je vois beaucoup de femmes qui prennent ça en première intention, alors que pour moi, il faut la prendre plutôt en dernière intention.
Et sous surveillance.
Voilà.
Ça, c'est pas moi. Nous, c'est pareil. En plante libre, sans contre-indication, on trouve ça dangereux. Enfin, dangereux.
Tout à fait.
En première intention.
Ou avec un bilan qui nous donne un rapport LH-FSH pour voir un peu ce qu'il en est. Mais je suis toujours assez effarée de voir cette plante toujours citée en première intention ou utilisée dans énormément de compléments alimentaires, alors que pour moi, elle est loin d'être neutre, en tout cas au niveau de son mode d'action. Alors qu'on a déjà d'autres plantes comme l'alchimie, la chilée, etc., qui peuvent être déjà très intéressantes. Après, moi, j'aime bien aussi utiliser les bourgeons de plantes, ce qu'on appelle la gémothérapie. Pour moi, c'est une forme qui est très efficace également avec les tisanes, qui là aussi est une forme très accessible et qui démontre son efficacité dès lors qu'on infuse bien le bon grammage de plantes, qu'on prend bien 3-4 tasses par jour, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de solutions naturelles avant d'en arriver effectivement peut-être à une solution médicamenteuse. Là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter et qu'il ne faut surtout pas prendre de médicaments, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a effectivement une problématique hormonale ou un problème chronique, il y a un certain nombre de piliers à mettre en œuvre dans un certain ordre. Et en fait, on passe. Le souci, c'est qu'on s'intéresse toujours à l'alimentation en dernier, quand on a tout essayé, alors que ça devrait être le premier pilier.
Tout à fait.
On agit.
De toute façon, c'est plein de bon sens ce que tu dis, c'est que même le meilleur complément alimentaire, si on ne change pas son alimentation, en tout cas si on fait n'importe quoi d'un point de vue alimentaire à côté, ne fonctionnera jamais. Et tu as raison de rappeler qu'on est toutes biochimiquement différentes, donc c'est pas parce qu'un complément alimentaire ou une plante marche très bien sur la voisine qu'il marchera sur soi. Donc c'est très important de les prendre aussi un à un et de pas accumuler, sauf justement en étant accompagné par une naturopathe ou un médecin, il faut se faire conseiller quand on en vient accumuler plusieurs choses. On ne peut pas faire soi-même sa petite cuisine, sinon on ne verra même pas ce qui nous convient ou non. Donc ça, c'est important de le dire.
C'est vrai, et c'est vrai qu'il y a, moi je vois aussi des femmes comme ça qui passent d'un complément alimentaire à l'autre, ou je viens vous voir parce que j'ai vu un tel, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je sais, oui, mais est-ce que vous vous êtes laissé le temps? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que les solutions naturelles fonctionnent, mais il faut aussi se laisser le temps. C'est pas comme l'allopathie où on prend un médicament, ça agit tout de suite sur le symptôme. Quand on cherche la cause profonde de ces problématiques, déjà ça suppose de remettre en cause son hygiène de vie, donc déjà c'est loin d'être confortable et ça nécessite quand même pas mal d'engagement et de motivation. Et puis, il faut se laisser au moins 3-4 mois, puisqu'au niveau du cycle, on sait que c'est à peu près la durée de maturation des follicules. Donc, pour qu'il y ait vraiment un impact, il faut au moins se laisser 3 mois pour observer des premiers résultats. Donc, c'est aussi toute une échelle de temps à revoir dans cette société où on a des objectifs à court terme, on veut tout de manière instantanée. La naturopathie, ça réapprend aussi la patience et à se remettre à un rythme plus cool.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et généralement, le saupoudrage, on voit aussi beaucoup de choses de saupoudrage. Alors effectivement, en alimentaire, on peut changer des choses en fonction de son cycle, mais les vrais changements de fond pour que les plantes fassent effet, qu'on voit quelque chose, et même d'un point de vue exercice physique, ça ne concerne pas que la phytothérapie. Comme tu dis, c'est au moins 3 mois. On doit vraiment voir des changements de fond. C'est important de prendre le temps, puisque finalement, d'un point de vue physiologique, c'est comme ça que ça se passe. Les cycles sont longs. Il faut reconnecter à ces cycles longs. Merci beaucoup pour tous ces super conseils, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à piocher et sûrement beaucoup de choses que les femmes vont apprendre là-dedans. Est-ce que tu as un petit mantra que tu dis à tes clients justement pour les aider dans cette démarche, comme tu disais, qui est finalement plus longue que la médecine traditionnelle, mais en même temps tellement plus saine. Et je pense qu'une fois qu'on l'a acquis, bah, c'est pour la vie. Et ça permet de vraiment mieux connaître son corps et mieux donc savoir maîtriser sa qualité de vie finalement. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces femmes-là pour les encourager justement à prendre leur santé en main? Est-ce que tu as un petit mantra ou un petit mot de la fin par rapport à ça?
Alors, je dirais que quand on fait ce qu'il faut, on n'est plus obligé de tout surveiller. Parce que c'est souvent ce qui revient, c'est de dire « Ah là là, mais voilà, je vais être obligée de faire attention, etc. » Oui, pendant un certain temps. Mais l'idée, c'est que quand on développe une bonne habitude, au final, ça va venir vous simplifier la vie. Dans le sens où vous allez vous choisir une habitude pour obtenir un objectif. Et si on se discipline un petit peu au départ pour acquérir ces bonnes habitudes, bah derrière, ça va être intégré au mode de vie. Et donc, évidemment, on va faire ce qu'il faut. Et donc, on n'aura plus besoin de se surveiller ou en tout cas d'être toujours dans la résistance. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pas comme un régime. Voilà, Véronique Lias dit que les régimes ne fonctionnent pas, elle a tout à fait raison. Dans le sens où un régime, déjà, derrière ce mot, c'est une connotation négative, une connotation de privation. Ce qu'il faut travailler, c'est une hygiène de vie, un nouveau régime alimentaire, enfin régime alimentation, tu vois, je redis le mot, mais une nouvelle habitude alimentaire. Parce qu'une fois que ça va être une habitude, ce sera tellement intégré et tellement naturel qu'il n'y aura plus, entre guillemets, de dérapage. Et donc, c'est ça, c'est de se dire, voilà, il y a une problématique, vous avez envie d'agir avec des moyens naturels, ok, c'est quoi votre objectif? Où est-ce que vous voulez être dans 3 mois? Où est-ce que vous voulez en être avec tous ces problèmes qui vous finissent aujourd'hui la vie? Et de vous dire, voilà, je vais faire ce qu'il faut, et puis je vais tenir ça à long terme pour qu'effectivement ce problème ne revienne pas. Et ça fonctionne. Le truc, c'est ça, c'est que si vous vous laissez du temps, que vous faites accompagner et que vous êtes bienveillante avec vous-même, etc., ça va bien se passer. Et en général, on a quand même des résultats qui sont même assez surprenants. Moi, j'avoue que des fois, j'ai aussi des résultats assez fous de voir à quel point c'est efficace, quoi, vraiment.
Ah ben, on a vu des femmes repousser des opérations de fibromes, des choses. Moi, j'ai des tonnes d'exemples en ayant échangé avec des experts qui sont proprement hallucinants, hein, même des insuffisances ovariennes prématurées qui sont décalées dans le temps, enfin... En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on se rend compte à quel point le corps est absolument plein de ressources et qu'il faut apprendre à savoir les utiliser. Et j'aime beaucoup ton idée de dire, bah, changer les habitudes. Finalement, il y a plein de ce qu'on croit s'accorder comme étant des plaisirs, on va dire, simples et rapides, comme une sucrerie au moment où il ne faut pas, en se disant, bah, tiens, c'est ma petite béquille. En fait, on va prendre des habitudes un peu plus saines et tout aussi gourmandes, modifier quelques ingrédients dans une recette de gâteau, remplacer le beurre par de la purée d'amande complète, remplacer du lait et du sucre par du jus de betterave. Enfin, il y a plein d'astuces aujourd'hui, il y a plein de comptes et de blogs et fourmis de bonnes idées. Et en fait, on se rend compte que c'est tout bête, c'est une habitude à prendre, comme tu dis, une habitude à prendre. C'est 2 semaines, c'est pas forcément plus compliqué, c'est pas forcément moins gourmand, c'est une nouvelle habitude. Et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est qu'on ne devient pas complètement ascète et on ne vit pas dans un monde parallèle. C'est juste qu'on prend des nouvelles habitudes plus saines et qu'on est plus à l'écoute de son corps. Et finalement, ça va vite.
Tout à fait.
Et écoute, un grand merci. J'espère que tu auras motivé beaucoup de femmes qui peuvent avoir des problèmes à ce moment-là à mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps et notamment à prendre un peu plus leur corps en main et conscience de leur cycle. Je te remercie beaucoup pour cet échange et puis à très bientôt, j'espère.
Merci à toi, Caroline. À bientôt.
Au revoir, Céline.
Au revoir.